écoutez le Libre Journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Heuvels, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 18 septembre 2020 de 18h à 21h et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir chers auditeurs, c'est un plaisir pour moi de réaliser cette nouvelle émission du Libre Journal des sciences et des techniques en direct. C'est souvent difficile de faire ce genre d'émission en direct dans la mesure où le créneau horaire de 18h à 21h le vendredi soir n'est pas toujours commode pour nous inviter. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui viennent aujourd'hui vous parler parce qu'ils se sont dérangés parfois de loin. Alors d'abord, le premier de nos invités, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Alors Jean-Bernard Fourtillon, vous êtes âgé de 76 ans ou
77 ans.
77. Bien, attention, bientôt vous ne pourrez plus lire Tintin.
Oui, mais on va allonger l'âge de la vie.
Mais toujours est-il, Jean-Bernard Fourtillon est un grand spécialiste de toutes sortes de choses, en particulier de chimie, de médecine c'est l'inventeur de la valentonine, qui est un produit qui est en train d'être développé pour toutes sortes de traitements, en particulier la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, mais ces tests sont en cours. Vous avez Serge Rader, qui est un grand spécialiste de pharmacie. Serge Rader est intervenu plusieurs fois dans notre Libre Journal et il aura son mot à dire. Vous avez le docteur Christian Thal-Schaller, qui nous a fait l'honneur de venir depuis Genève. Et je dois dire que c'est agréable. Jean-Bernard Fourtillon, vous venez de Marseille, si je ne m'abuse.
Poitiers.
Ah bon, pardon, excusez-moi, c'est moins loin, mais c'est quand même pas tout près. Et pour terminer, nous avons Didier Rochard, que nos auditeurs connaissent bien parce qu'il a sa propre émission, sur Radio Courtoisie, et il va nous servir de modérateur, puisque nous avons, beaucoup de personnes qui sont très emportées sur le sujet qui nous intéresse. Alors, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est le scandale de la Covid. Et tout est scandaleux là-dedans. La façon dont l'État a menti en permanence, et je pourrais vous raconter des tas d'exemples de ces mensonges. La façon dont l'État pénalise la population par l'usage de masques, après avoir dit et répété le ministre en question, Monsieur Olivier Véran, il a dit et répété que le masque ne servait à rien, et maintenant on nous l'impose partout. Vous avez également cette espèce de terrorisme qui s'introduit pour restreindre les libertés individuelles. Pendant la période dite du confinement, il y a une période où on ne pouvait pas sortir de chez soi, et ça a été suivi par une période où on n'avait pas le droit de se déplacer à plus de 100 km de son domicile, et ainsi de suite. Alors il se trouve que si on regarde de près, tout ce que nous a raconté le gouvernement depuis le début est faux. Et je vais commencer par un exemple qui est très clair, le nombre de morts. Le nombre de morts, en fait, la plupart du temps, les gens qui sont morts à l'hôpital ou en EHPAD, très peu ont été effectivement diagnostiqués comme étant des personnes victimes de Covid, c'est-à-dire victimes du virus, du coronavirus dont tout le monde parle. C'est-à-dire c'était parfois des gens en insuffisance respiratoire. Et en ce qui concerne en particulier les personnes âgées en EHPAD, ces personnes âgées sont décédées parfois d'une insuffisance respiratoire sans que le diagnostic de la Covid ait été fait de façon précise. Ce qui veut dire qu'il y a une quantité de morts qui sont soit des gens qui sont morts pour autre chose que de la Covid, soit qui sont morts pour des questions de comorbidité, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà malades pour une autre raison que la Covid, et le cas échéant, la Covid a précipité leur décès. Alors, ceci est particulièrement frappant, puisque si vous regardez la grippe saisonnière classique, eh bien, en octobre de l'année dernière, eh bien, le gouvernement nous a envoyé des documents en disant « vaccinez-vous contre la grippe ». Et en fait, cette grippe n'a causé aucun mort. C'est-à-dire qu'en fait, je crois une cinquantaine de morts en tout.
72
d'après l'OMS.
Non, d'après Santé publique.
Santé publique.
C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, il faut savoir que la grippe saisonnière fait en gros 15 000 morts par an, parfois plus, parfois moins, de cet ordre.
C'est encore faux. Ça fait beaucoup moins.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les chiffres qui sont donnés par l'État, c'est 15 000 morts. Et en fait, je dirais que beaucoup de gens qui sont déclarés morts de la grippe saisonnière, c'est simplement d'une insuffisance respiratoire. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à respirer, donc ils ont un petit rhume, et bien pour eux c'est fatal, ils meurent d'insuffisance respiratoire. Non, mettons, pour simplifier, 15 000 morts par an de grippe saisonnière, cette année 72. Où sont passés les morts de la grippe saisonnière? Bien, ils ont été catalogués comme morts Covid. Ce qui veut dire qu'à la fin, le nombre réel de décès dus au Covid, et c'est évidemment bien moins que ce qui est les 30 000 morts qui nous sont présentés. C'est peut-être de l'ordre de 15 000, peut-être même beaucoup moins. Et en tout cas, ce sont des chiffres inférieurs à ceux de la grippe de 2017, de la grippe de 2018, qui ont été parfaitement bien étudiés. Ce qui veut dire que nous avons été confinés, nous avons des faillites en pagaille de toutes les entreprises françaises qui n'ont pas pu fonctionner, nous avons un pays complètement désorganisé et il faut le dire ruiné, pour rien. Pour rien, parce que, en fin de compte, si vous voulez, on aurait pu très bien faire ce cirque du Covid en 2017 avec la grippe saisonnière. D'un seul coup, on a dit la grippe saisonnière tue, on ferme les entreprises, on met des masques à tout le monde, on confine. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas plus de morts du Covid cette année qu'il y en a eu de la grippe de 2017-2018. Attendez, ceci est encore pire, parce que, en fin de compte, si vous regardez la situation que l'on a eue récemment, bien ça, c'est la copie de tout le cirque qui a été développé pour la grippe H5N1. Vous vous souvenez, Roselyne Bachelot et ses millions de doses de vaccins qui ont été commandées et qui n'ont servi à rien, ça a coûté plus de 400 à 500 millions d'euros.
1,5 milliard,
Oui, mais enfin bon, là vous donnez les vrais chiffres, moi je dis, enfin officiellement c'est 450 millions d'euros, mais en réalité c'est 1,5 milliard. Et pendant, je vois que pendant cette période, d'un seul coup, vous aviez des infirmières qui étaient installés dans des espèces de cirques en toile pour vacciner à tout bras des gens qui n'étaient pas volontaires pour se faire vacciner. Finalement, les Français ont résisté, ils ne se sont pas fait vacciner. Les vaccins prévus sont restés sur le dos des pouvoirs publics et finalement, il n'y a pas eu plus de morts, pas plus que d'habitude. Donc, en fait, on a l'impression que tout ce cirque de la Covid est une espèce de gigantesque escroquerie où le gouvernement a cherché à faire peur. Il a cherché à faire peur pour que ensuite, eh bien, inciter à ce que on se vaccine de force, de gré ou de force, puisqu'il est question de vaccins qui soient obligatoires. Obligatoires. Et alors là, c'est extraordinaire, c'est que vous avez tous les partis qui s'y mettent. Depuis Mme Le Pen qui dit qu'il faut vacciner de façon obligatoire tous les vieux. Les vieux, c'est quoi? C'est les plus de 65 ans, c'est nous, par exemple. Bon. Mais ensuite, eh bien, vous avez les Républicains qui s'y mettent aussi. Vous avez La République En Marche qui, évidemment, est pour les vaccins obligatoires, et ainsi de suite. Je ne sais pas si peut-être les Insoumis, la France Insoumise sera pour les vaccins obligatoires. On n'en sait rien. Pour le moment, ça viendra. Mais les vaccins obligatoires, c'est encore quelque chose d'épouvantable. C'est-à-dire, c'est les entreprises pharmaceutiques qui sont là pour faire de l'argent sur notre dos et qui ne se privent en rien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que à l'époque, le vaccin la grippe H5N1 était une espèce de grippe montée de toutes pièces par l'OMS. Et si vous cherchez, chers auditeurs, sur Internet, vous trouverez que la personne qui est responsable de tout le cirque qu'il y a eu sur la grippe H5N1 l'a fait de façon volontaire pour provoquer une espèce de gigantesque système de pompe à finance pour le Big Pharma, les grandes entreprises pharmaceutiques. Et en fait, ça n'a pas réussi. Et là, tout laisse à penser, tout laisse à penser, et là, vous allez en parler, Jean-Bernard, que, en fait, la Covid-19 est une fabrication artificielle dont le seul but, à part de tuer des gens, mais finalement, elle n'en a pas tué grand monde, puisque si vous regardez les vrais chiffres, eh bien, ce n'est pas pire qu'une grippe saisonnière habituelle. Ce n'est pas pire qu'une grippe... vous pourrez en parler, Serge Radar. Mais ce qui est absolument épouvantable là-dedans, c'est qu'on a fabriqué cette espèce de monstre pour ensuite dire, regardez, la seule façon de se sauver du désastre, ce sont les vaccins. Alors, j'ai trop parlé. Mais il faut quand même que nos invités s'expriment, et je les vois qui piaffent d'impatience, parce que toutes ces choses sont affreuses. Je donne peut-être d'abord la parole à Serge Radet.
Deux mots juste pour commencer, et attiser un peu le feu dans l'âtre. Les vaccins qu'on veut nous imposer, vous voyez bien toutes les déclarations actuellement, des hommes politiques, Muselier, président de région dans le PACA, Mattei à l'Académie de médecine, enfin bref, tous les mercenaires de l'industrie pharmaceutique qui trouvent dans les vaccins un nouveau modèle économique, puisqu'ils ne trouvent plus de médicaments. Ils sont en train de tirer les dernières cartouches dans le domaine de l'oncologie avec des prix prohibitifs exorbitants qui mettent à genoux la sécurité sociale. Et donc, on va nous imposer, avec l'argent de Bill Gates, je voudrais dire que Bill Gates avait prévu 30 millions de morts. Or, les premiers rapports qui sont en train de sortir, on parle de 800 000 morts à l'échelle planétaire. Je rappelle quand même que la grippe de Hong Kong en 68, c'était 1 million de morts, et que celle de 57, l'asiatique, c'était 2 millions de morts. Donc, on les a tous classés en Covid cette année. Hein. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. 800 000 morts qui, en fait, puisque les dossiers actuellement des grands experts de laboratoires indépendants, non à coquiner avec le laboratoire, nous parlent que tous les tests, et ça a été, le renseignement a été pris auprès de la Commission européenne à la mi-avril, tous les tests ne sont pas fiables. Il n'y a pas d'étalon standard, il n'y a pas d'indication des séquences utilisées pour déceler l'éventuel virus. Et c'est un scandale où il faut que la population monte au créneau, parce qu'il y a une action juridique d'ampleur internationale à mener, parce qu'on ne peut pas les laisser continuer. Avant, avec le croque-mort de service, nous adosser des morts journaliers, et maintenant, des gens... avec une réaction positif au PSR, alors qu'ils sont tous sains. Maintenant, on est en train de faire des analyses, de dépenser un argent fou, 73 euros, à plus d'un million de tests maintenant hebdomadaires, mais c'est de la folie,
oui,
de la folie
d'eau. Attendez, Serge Radet, vous avez dit plusieurs choses, et une des choses importantes que vous avez dites, il faut quand même mentionner, c'est que les entreprises pharmaceutiques ne trouvent plus de médicaments, ou alors à des prix complètement exorbitants. Alors, l'exemple que l'on peut citer, c'est la dégénérescence maculaire. Vous avez l'Avastin et le Lucentis. Le Lucentis vaut 500 fois le prix de l'Avastin. Et l'Agence pour le médicament incite les ophtalmologues... 40 fois, c'est déjà pas mal, et à utiliser le Lucentis plutôt que l'Avastin. Et en même temps, il y a une pression très forte, et ça, nous allons y revenir, parce que c'est important dans le Covid, pour utiliser des médicaments très chers et peu efficaces, alors qu'il existe des médicaments bon marché. Et le bon marché, on peut citer l'hydrochloroquine, mais on va y revenir. Et par exemple, le nouveau... médicament qui a été mis au point, c'est... Attendez, j'ai un trou de mémoire d'un
seul. Remdesivir, peut-être.
Le Remdesivir.
Inefficace, toi.
Qui est non seulement inefficace.
Dangereux.
Et est dangereux à un point, 30% des patients qui ont des effets secondaires graves. Et ce Remdesivir, bien entendu, tous les grands experts du gouvernement, c'est-à-dire depuis le ministre de la Santé jusqu'au président du conseil scientifique, sont impliqués jusqu'au cou dans le Remdesivir, puisque en particulier les tests qui ont été faits pour tester l'efficacité ont été faits sous leur coupe. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est que l'industrie pharmaceutique se précipite dans l'industrie des vaccins pour,
l'autoroute.
C'est l'autoroute.
Alors juste une précision sur les chiffres, parce qu'il faut que les auditeurs, quand je les vois tous porter un masque complètement... les bras m'en tombent. Quand je les vois tous dans la rue avec un masque, c'est quelle manipulation gigantesque. Pour parler des morts, je parle des morts des plus de 80 ans, hein, qui ont été la majorité, il faut donner les chiffres. 60% d'entre eux avaient trois pathologies. Diabète, cancer, hypertension, etc. 25% avaient deux pathologies. 14-15% une pathologie. Seulement 3% sont classés Covid. Il faut vous dire qu'on a aussi beaucoup tué pendant 2 mois par erreur de thérapie. Quand vous avez des poumons qui ne fonctionnent plus, vous avez beau leur pomper tout l'oxygène que vous voulez... Vous les tuez par hémorragie artério-veineuse, les artères pètent. Hein. Donc pendant 2 mois, ça a été ça. En plus, en Italie, ils ont fait encore pire. Ils ont injecté de l'interféron par voie intraveineuse, qui est une contre-indication formelle. Et ça, ça a duré plus d'une semaine. Donc vous voyez, il y a vraiment des procès au pénal à mener sur les erreurs, sur vraiment les erreurs de stratégie. Je rappelle que... Sur les 800 000 morts qu'on annonce actuellement, qu'on peut réduire, je pense, à 40 000 du Covid, dont on verra qu'il a été fabriqué en laboratoire, et que les morts mondiales de pneumonie au monde, c'est 7 millions. Donc, vous voyez, il faut rapporter les chiffres. Et qu'en fait, pour terminer, cette pandémie qui n'a plus lieu d'être, hein, cette peur qu'on veut continuer à proférer à la population de manière qu'elle accepte un vaccin inutile et dangereux, on en parlera, Moderna, 50 à 60% d'effets secondaires, j'ai fini, la pandémie ne tient que par un pompage médiatique basé sur des tests non fiables donnant des positifs sains. C'est hallucinant.
Oui, alors, on va parler des tests, mais surtout ce que je voudrais dire qui est très important, c'est que dans beaucoup de cas, les gens qui sont décédés, on leur a attribué un décès au Covid, alors qu'on n'a fait aucune autopsie, et parfois pas un examen médical sérieux. Ce qui veut dire que, en fait, lorsque vous avez, par exemple, je ne sais pas, un vieux monsieur ou une vieille dame, qui est dans un EHPAD, confiné, parce qu'il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de recevoir ses proches, enfin, il est dans une situation de prison, et il développe une insuffisance respiratoire. C'est très commode de le déclarer Covid sans même avoir fait de test. Ce qui veut dire qu'en fait, dans beaucoup de cas, vous avez des quantités de morts qui ont été attribuées au Covid, alors que ce n'est pas le Covid. Et je dirais que cette situation est claire, parce qu'une autopsie, ça coûte très cher. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un vieux monsieur ou une vieille dame qui décède, et puis d'un seul coup, on lui dit c'est le Covid. Et alors, il faut savoir aussi que les médecins étaient, disons, récompensés lorsqu'ils disaient que le Covid, c'est-à-dire qu'ils avaient une prime. Hein, on est allé juste.
Ah ben, la journée n'est pas la même. Le prix de la journée en Covid, qui nécessite une surveillance de tous les instants, n'est pas le même que dans un service.
Bon, mais enfin,
pardonnez-moi, simplement la déclaration par le médecin.
Absolument.
sur le certificat de décès Covid-19.
Oui. Et en fait, c'était récompensé. Alors, pour tout dire, si vous voulez...
Et on les a achevés avec le Rivotril, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Ça, ce sont sans doute les questions. Alors, je vois depuis le début notre invité principal, qui est Jean-Bernard Fourtillan, qui est très patient, et qui va nous dire un peu ce qu'il en pense.
Alors d'abord, je voudrais dire que j'étais professeur de chimie thérapeutique, mais en plus de ça, j'avais un centre de phase 1. J'étais le seul centre phase 1 au monde qui avait à la fois les laboratoires et la clinique. Donc, j'ai fait ça, c'était ma femme, mon épouse qui était présidente, parce que moi j'étais professeur, mais je faisais fonctionner le centre. C'est un centre très important, c'est dans mon centre qu'a été découvert le premier produit actif contre le sida, et j'ai mené toute ma vie, ça a été l'expertise des médicaments et leur fabrication. Bon. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'industrie pharmaceutique n'a plus que deux types de médicaments. Ils n'ont plus que les vaccins et les anticancéreux. Il n'y a plus rien. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les médicaments qui existent sur le marché, qui ont existé, non, on n'a jamais connu aucun mécanisme de maladie, je vois bien, et on n'a jamais connu non plus aucun mode d'action de médicament. Alors c'était particulièrement vrai dans les psychotiques, en psychiatrie par exemple, on n'a jamais connu le mécanisme psychiatrique, mais toutes les maladies. Et on n'a jamais connu le mode d'action d'un médicament, y compris celui de l'aspirine. Donc, ouais. Alors quand on ne connaît pas la cause d'une maladie, on ne peut pas la traiter valablement. Et quand on ne connaît pas le mode d'action d'un médicament, on ne peut pas faire... On ne voit pas, bon. Donc effectivement, ils n'ont plus que deux créneaux, les vaccins et les médicaments. L'histoire des vaccins, c'est quand même une histoire scandaleuse et on vient de mettre un coup d'arrêt, je vais en reparler tout à l'heure, parce qu'il faut mettre les points sur les i puis arrêter maintenant toute cette mascarade. Ça fait plus de 30 ans qu'ils font des galops d'essai, qu'ils essaient de nous imposer des vaccins en mentant tout le temps. Et ça a commencé dans les années 80, Et c'est l'année d'ailleurs où j'ai commencé à m'intéresser à la spectrométrie de masse. Et ils ont vraiment commencé dans les années 95, puisque en 2010, le docteur Adrien Neil, qui est l'équivalent du docteur Frédéric Tanguy à l'Institut Jenner d'Oxford, avait déclaré, à propos d'un vaccin contre la malaria, ils avaient utilisé contre la malaria un vaccin fabriqué à partir du coronavirus SARV, le coronavirus SARV, qu'ils avaient transformé, qui a été l'objet du premier brevet qui a été retrouvé au mois de mars en France, mais qui a été déposé en 2003, et dans lequel ils avaient introduit 159 insertions. Et effectivement, l'affaire, ça a fait grand bruit quand un inconnu, quelqu'un, a découvert l'existence d'un brevet européen, et on a vu que ce brevet avait été pris par l'Institut Pasteur, avec des inventeurs. Sur ces inventeurs, le directeur de l'innovation vaccinale de l'Institut Pasteur, c'est le docteur Frédéric Tanguy, qui a fait une interview d'ailleurs au mois d'avril, et puis ensuite au mois de mai, qui était très bavard, qui a beaucoup parlé, et qui nous a donné la recette de fabrication du Covid-19, et également la recette du vaccin qui était programmé. Et donc, quand ils ont sorti ça, effectivement, ils ont été secoués, ça a été terrible. Le soir même, à la télévision, on a parlé de cette vidéo qui avait été faite par une personne candide, et en disant, voilà, ils l'ont montré à la télévision. Donc, le lendemain, je me souviens d'interview de Jean-Jacques Bourdin, qui interviewait le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, qui s'appelait Olivier Schwartz. Et vous rendez compte, on a dit que l'Institut Pasteur avait fabriqué le vaccin, le virus Covid-19. Mais vous vous rendez compte? Et ensuite, d'ailleurs, l'Institut Pasteur va porter plainte. Et puis, on sait qui c'est. Oui, on sait qui c'est un gilet jaune. Voilà. Sick. Bon, il n'a jamais été embêté, hein. Mais tout de suite, il a fallu montrer. Alors, Olivier Schwartz, ils y allaient chacun. Ce sont des apprentis sorciers. En nous disant qu'un brevet, un inventeur, ce n'était pas une invention. Qu'ils avaient étudié le génome du coronavirus SARS-CoV. Coronavirus qui avait été responsable de l'infection en 2002, en 2003. Ainsi. Et qu'ils avaient tué son génome alors qu'ils avaient fait 159 insertions d'ADN. Je pense qu'ils avaient déjà introduit la malaria. Et en plus, 159, dont une cinquantaine d'ADN de synthèse. Alors comme mutation, c'était extraordinaire. Et comme, donc c'était pas un génome. Ils nous ont pris pour des imbéciles en disant qu'un inventeur, on ne peut pas breveter un virus naturel. C'est dans le domaine public. Et quand, moi j'ai pris beaucoup de brevets, j'en prends depuis 1994, d'ailleurs nous avons obtenu les brevets européens, américains pour notre patch, donc de Valentonine, et effectivement, ils ont cru s'en sortir, ils ont raconté plein de bêtises, et puis voilà. Ça continue, mais moi, j'ai tout de suite compris, ce jour-là,
oui, alors,
qui était le fabricant de Covid-19. Et je reviendrai plus tard là-dessus, mais en tout cas, ça fait 30 ans qu'ils travaillent dessus, et c'est leur consécration, ce vaccin. On vient d'arrêter, je vais revenir dessus tout à l'heure.
Alors justement, professeur Fortillant, si vous voulez, la Covid-19, je ne sais pas s'il faut dire le ou la Covid.
La Covid.
La Covid, bon.
Oui, c'est la maladie.
C'est la maladie. Eh bien, vous avez, je crois, c'est dans dès le 18 avril, vous avez le professeur Montagnier qui disait que la Covid-19 est une création humaine et qu'il contient toutes sortes de séquences, dont des pans entiers du VIH et d'autre part,
les
pans entiers de la malaria. Alors, en fait, selon le professeur Montagnier, c'était très peu vraisemblable que ça soit dû à une mutation naturelle, parce que, en particulier, le VIH n'est pas quelque chose qui se balade chez les pangolins. Et c'est, alors la malaria peut-être, mais s'il y avait donc cette espèce de pan entier, et d'un seul coup, professeur Montagnier a été traité d'abruti. Bon, alors c'est pas le seul à avoir fait ça. Vous avez des Chinois, vous avez des tas de gens, et des Indiens en particulier. Et en particulier, chaque fois que ces gens disaient que le virus est de fabrication artificielle, on les traitait d'incompétents. C'est une chose qu'il ne faut pas dire. Mais si vous voulez, vous savez, dans toute situation, vous avez le problème de savoir à qui profite le crime. C'est-à-dire, je pense que, très honnêtement, la Covid, il faudrait que les gens soient poursuivis en justice.
Absolument.
Alors, certains le sont, mais je vais prendre un exemple très simple. Il se trouve que le professeur Raoult a montré que donner au début d'une infection par la Covid, l'hydrochloroquine, c'est-à-dire c'est la quinine en fait, un médicament que tout le monde a pris. Lorsque vous alliez par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud pour vous protéger de la malaria, tout le monde prenait ça et personne n'en a été malade. Bon, c'est un produit très inoffensif, beaucoup plus inoffensif que les nouveaux traitements contre la malaria qui sont eux nettement plus agressifs. Hein. Bon, mais ceci est si vous voulez, immédiatement, je crois que c'est au mois de mars, et bien pour une raison extrêmement mystérieuse, il n'y a pas eu d'explication, Madame Buzyn a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en la classant dans les produits toxiques. Alors que
le 13 janvier, exactement.
Le 13 janvier, vous avez raison.
La loi sur le confinement, c'est le 5 décembre. Il y a beaucoup de coïncidences.
Oui, alors, ce qui est absolument fascinant là-dedans, c'est que, en fait, l'hydroxychloroquine fonctionne précisément, semble-t-il, parce que le virus de la Covid contient des pans entiers de la malaria.
Voilà.
Et donc, c'est ça qui fait que ça marche miraculeusement, je dois dire.
Bon, alors,
ce point est important parce que, en fait, vous avez toutes les signes, les signatures d'une entreprise criminelle, je dois dire. Parce que je pense qu'il est criminel que Mme Buzyn est interdit l'hydroxychloroquine. C'est criminel, c'est-à-dire que c'est au moment où le gouvernement commençait à être informé de tout ce qui se passait, c'est-à-dire en janvier de l'année 2020, ils ont dit qu'ils savaient. Et en fait, pourquoi faire mettre un des produits qui s'avérerait être le plus efficace, quoi qu'on en dise, sur l'infection à ses débuts, pourquoi donc l'interdit-on ? C'est un point, à mon avis, capital, professeur Fortillant.
Alors, là, je vais revenir sur... Parce que même le professeur Raoult est un très bon médecin, le professeur Perron aussi, j'ai le plus grand respect pour eux, mais ce ne sont pas les pharmacologues, et ils ne savaient pas pourquoi l'hydroxychloroquine était... L'hydroxychloroquine n'a jamais été un antiviral ou un antimicrobien. C'est uniquement parce que ils savaient, en 2005, on avait déjà fabriqué le SARS-CoV-1, qui est le même que SARS-CoV-2 d'ailleurs, hein, qui a été repris, alors ça c'est des problèmes techniques, et donc on avait déjà utilisé le coronavirus modifié avec les 158 synthèses, et il y avait la malaria, et parce qu'ils voulaient fabriquer un vaccin contre la malaria, et ensuite ce vaccin contre la malaria, le génome, donc il y avait la malaria dans un coronavirus, hein, et donc ensuite ils l'ont fait porter par un vecteur viral qui était d'un côté le virus de la rougeole, qui présente l'avantage d'être très bon marché et très contagieux. D'ailleurs, il y a une publication que j'ai dans les documents, cite Vérité Covid-19, de publication du docteur Frédéric Tanguy et de monsieur Naïm, d'un certain Naïm, qui disait que le virus de la rougeole était très bon marché, à bas coût, c'était très attrayant pour fabriquer des vaccins à l'échelle mondiale, et on pouvait introduire dans ce vaccin la malaria, on pouvait introduire le HIV et d'autres virus comme le virus du le flavovirus, le virus du Nil, etc. Bon. Et effectivement, en 2005, on s'est aperçu pour la malaria, dans le traitement de la malaria, que quand on traitait des gens qui avaient des infections en coronavirus, eh bien, l'hydroxychloroquine était active parce que en cassant les séquences nucléiques de la malaria, on cassait tout le génome et on cassait tout. Et s'il n'y avait pas eu la malaria dans le coronavirus, l'hydroxychloroquine n'aurait eu aucun effet.
Tout ça. Attendez, mais si vous voulez, moi je pense que ce point précis, il n'y avait aucune raison de déclarer que l'hydroxychloroquine est un produit toxique. Aucune.
Aucune, si. Pour eux, oui.
Alors, je voudrais peut-être, puisque nous faisons cette émission en direct, eh bien, sortir quelques questions d'auditeurs, puisqu'ils vont être frustrés si on ne les mentionne pas. Alors, un auditeur, il dit, on m'a dit que si on est testé positif au test actuel, on a 50% de chances d'être négatif, et si on est testé négatif, on a 25% de chances d'être positif. Est-ce vrai ? Bon, je pense que en fait, ça montre une chose qui est vraie, c'est que les tests sont très peu fiables.
Ça montre surtout que les gens ont peur. Pourquoi ils vont faire la queue, perdre leur temps et tout, payer 100 euros dans les opérateurs au black ?
Il y a une excuse vis-à-vis des gens. La première excuse, c'est que bon, ils se sentent des symptômes. Ils ont peut-être envie de savoir s'ils le sont atteints par la Covid-19 ou pas, pour protéger leurs proches. Ça, c'est un point qui est. Mais c'est surtout les personnes qui voyagent. Mais tout le monde ne voyage pas. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une espèce des queues absolument interminables. Et par contre, je pense que c'est aussi à cause des employeurs.
Non, mais si vous vous sentez bien, vous n'avez aucune raison. Là, on va tester des gens sains, oui, qu'on aille tester des gens malades.
Je pense qu'il faut refuser catégoriquement de se faire tester, à moins qu'on soit à la
absolument
dernière invité.
Pardonnez-moi, mais il faudra...
Et ça va loin dans les écoles. Hein. On va tester des enfants.
Je crois qu'il faut dire à cet auditeur qu'on va revenir très longuement sur les tests, parce qu'effectivement, il y a des études qui ont été faites. Il y a même des études qui ont testé les tests pour savoir si véritablement on testait quelque chose. Et là, je pense que je ne suis pas le scientifique de ce plateau, mais je pense qu'il va falloir largement expliquer aux auditeurs. Je le dis d'une façon générique, les tests ne servent à rien et le test ne teste rien. Absolument. Je ne dis que
qu'il
ça.
Qu'il soit sérologique,
les scientifiques vont l'expliquer. Question, c'est un commentaire. Avez-vous entendu parler du chikungunya des Antilles qui devait faire des millions de morts et qui entraînait des millions de vaccins pour rien ou presque? Le surplus a été brûlé. C'est un exemple comme un autre. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est H5N1 et vacciner pour le plaisir d'augmenter les bénéfices des pharmaciens.
Et c'était légal au décès. Hein. C'était légal au décès, la consécration.
Nous en sommes à plus de 500 enfants qui sont décédés du vaccin d'Exvaxia, parce que là, M. Bill Gates veut obliger à vacciner, alors que les vaccins n'ont aucun recul. Et en plus, ces vaccins, ils ont été arrêtés à l'échelle planétaire en 2012. Le seul pays qui a continué les recherches là-dessus, c'est la Chine. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui essayent de gratter, c'est difficile en Chine et tout, mais n'aurait-il pas vaccinés avec ce fameux vaccin que tout le monde a arrêté? Pourquoi ils les ont arrêtés? Eh bien parce qu'ils sont aperçus que tous les vaccins cytokines mis au point entraînaient des tempêtes cytokiniques, et lorsqu'ils les testaient sur les souris, elles crevaient tous. Toutes les souris crevaient. C'est pour ça qu'on les a arrêtées après 10 ans de recherche.
Bon, alors écoutez, revenons peut-être sur l'émission, mais je vais juste mentionner quand même que l'OMS elle-même a reconnu que la campagne de vaccination par la poliomyélite qui a été faite sous l'influence de Bill Gates a provoqué une épidémie de poliomyélite. C'est quand même intéressant.
Et des paralysies flasques.
De paralysie flasque aiguë, exactement.
Et qui, ils ont viré, les Indiens, ils ont
496 000 cas.
Enfants.
Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi forcé la main... Ils ont vacciné, et Bill Gates en porte, d'ailleurs il a été éjecté, puisqu'il avait mis 451 millions de dollars sur la table, le NGATI, qui était la commission nationale indienne, et on s'est retrouvé avec 7 jeunes filles décédées, et une sur 19 avec des effets collatéraux graves. Donc M. Bill Gates est un criminel. Je n'ai pas peur de le dire sur cette antenne, puisque le conseiller de Nelson Mandela en Afrique, M. Patrick Bond a dit que c'était non seulement un criminel, mais que c'était un type impitoyable et immoral. Et ce type-là passe pour un philanthrope, alors que pour un euro qu'il investit, il en reçoit 20.
Bill Gates a déclaré qu'il voulait diminuer la population mondiale. Ben, il y arrive chaque fois qu'on lui donne la main.
Oh, absolument.
On est dans un principe d'inversion, car n'oublions pas que Bill Gates présente ça pour sauver l'humanité, permettre à l'humanité de mieux vivre. C'est là le principe d'inversion.
Juste, attendez, je vais vous donner la parole, Jean-Bernard, mais pour répondre à un auditeur, intervention en direct de Bernadette, je ne sais pas qui c'est, toujours est-il que merci pour cette émission très enrichissante. Faut-il cette année que les sujets âgés en bonne santé se fassent vacciner contre la grippe ? Merci pour votre réponse.
Parce que justement, je tiens les dernières informations italiennes d'éminents spécialistes, puisque un avait été même nommé pour le Nobel il y a 2 ans de médecine. C'était la situation de Bergame et Brescia, où il est démontré maintenant, et les résultats vont s'amplifier, c'est qu'en fait, la survaccination qui a été faite dans ces régions par le vaccin anti-grippe, mais aussi par le vaccin anti-méningite, a potentialisé les effets, et c'était la région qui a connu la plus forte mortalité.
C'est-à-dire que là, celle où on faisait faire des vaccins.
Absolument. Et aujourd'hui, M. Fischer reprend du poil de la bête. Vous savez, ce mercenaire qui a amené les 11 vaccins obligatoires en France sous une commission dite de démocratique, alors qu'elle n'avait rien de démocratique. J'en ai été exclu, d'ailleurs. Mais les politiciens manipulés, mais ils sont quand même médecins, qu'ils mettent un peu le nez dans les dossiers, non d'une pipe. Ils sont responsables politiques et responsables de la santé de la population. Et ces gens-là, c'est incroyable. Il y a une députée qui vraiment m'a épaté ces derniers jours, c'est Madame Samia, j'ai peur d'écorcher son nom,
Samia Ghali
à Marseille, qui a dit une vérité en disant qu'elle et sa famille n'accepteront jamais le vaccin et qu'il ne veut pas servir de rat de laboratoire. Voilà ce qui est en train de se passer.
Nous abusons vis-à-vis de Jean-Bernard Fourtillon, qui est notre invité principal ce soir, et on vous donne pas la parole.
Alors je pense qu'on s'égare là actuellement.
On est en train de rappeler
tout ce que les lanceurs d'alerte font, et ça les rassure, parce que quand le professeur Perronne, que j'estime énormément, c'est pas une critique, quand il dit quelle est l'erreur qu'ils n'ont pas commise,
absolument, c'est le titre de son livre,
volontaire, parce que tout ce qu'ils font là, ils le savent. On a attaqué les Chinois.
Le professeur
Montagnier, tout respect entre eux, que je respecte parfaitement parce que ce n'est pas un vieux gâteau, il connaît l'immunologie, mais quand il a dit que, quand il a accusé les Chinois feraient bien de dire qu'ils ont voulu faire un vaccin contre le sida, alors là c'est une grosse bêtise, hein, parce qu'on sait très bien qu'il est impossible de faire un vaccin contre le sida. Et ce que je vous ferai remarquer, c'est que... Puisqu'on va aller droit au but, hein. Maintenant on sait que le vaccin a été fabriqué par les Français et qu'ils l'ont fabriqué...
Le vaccin, pas le virus.
Le virus a été fabriqué. C'est ce virus qui va servir au vaccin.
Voilà,
ce virus a été fabriqué à partir d'un échantillon donc prélevé avant 2003. Il n'est jamais fichu les pieds en Chine. Ils ont fabriqué SARS-CoV-1. Ils ont dit qu'il s'appelait SARS-CoV-1. SARS-CoV-1, donc, avec 159 expressions, et à mon avis, il y avait la malaria, parce que quand ils vous mettent des nucléotides, vous avez 300 pages de nucléotides, vous savez pas ce que c'est. Moi, je pense que le premier qu'ils ont mis, c'était la malaria. Hein, c'était dans le but de faire un vaccin contre la malaria. Le vaccin contre la malaria, ils en ont ajouté bien d'autres. Et donc, ensuite, ils ont pris un brevet qu'on a découvert. Ils ont touché, ils ont crié « scandale !» Et ensuite, en 2011, ils ont pris un brevet aux États-Unis. Ça, personne ne l'avait vu. Je l'ai trouvé, bien sûr. Ils n'ont pas développé dans d'autres pays, parce qu'il faut reconnaître que pour les marchés des médicaments, les États-Unis, c'est 55% du marché des médicaments se situe aux États-Unis, et 20 ou 25% en Europe, donc il ne reste pas grand-chose, parce que la Chine, ils utilisent peu de médicaments, etc. Et ensuite, ils ont repris en 2011 une continuation de ce brevet, d'ailleurs c'est bien lui, dont le but c'est de faire soit des réactifs, soit un vaccin, parce que et l'industrie pharmaceutique ne fera jamais un médicament ou un vaccin si c'est pas protégé par un virus, parce que si vous avez un virus naturel, il faut 48 heures pour faire un brevet. Vous le mettez dans un flacon. Qu'est-ce qu'ils faisaient, la rage? Maintenant, on vous fabrique, on les met dans des virus acteurs, on y met des tas de poisons. Hein, à l'arrivée, c'est pas du tout contre le coronavirus. Ils ont fait du virus de la malaria. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Adrien Neil, qui est l'équivalent de Dr Tanguy, en 2010, il a fait une vidéo que vous pourrez voir. Et il a dit que pour faire un vaccin comme celui de la malaria, il fallait 15 ans. En 2010, ça vous ramène à 1995. Et quand ils ont déposé un brevet en 2003, mais ça remonte 10 ans d'avant, parce que pour faire 151 versions dans un virus naturel, c'est du boulot, hein. Vous vous rendez compte? Et puis, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et donc, ensuite, ils ont continué. La continuation, donc, en 2011, c'était uniquement pour des raisons techniques, mais ils ne l'ont pris qu'aux États-Unis, parce qu'ils étaient déjà protégés par le brevet de 2003. Un brevet, dès que vous le déposez dans le mythe qui suit, il est protégé et il ne prend application, c'est-à-dire vous êtes protégé pendant 20 ans, dès l'instant où il est utilisé. Or, le deuxième brevet, c'était le même que le premier, vous avez qu'à regarder, les 151 versions sont les mêmes, c'était SARS-CoV-2, et il n'y avait que des ADN, et comme on a retrouvé le virus du sida, enfin les... La spike protéine ou les quatre séquences donc, qui vous donnent le sida. Et d'ailleurs, c'était certainement un virus de synthèse, parce qu'on n'a jamais pu isoler le virus sida. Donc on l'isolait par synthèse. Et là, quand on le donne par synthèse, là, celui-là, on vous le met dans le corps, vous êtes immunodéficient, vous êtes à vie. Hein. Donc ils ont introduit. Et ils n'ont pas pris de brevet en 2001, parce que ça, les examinateurs de brevets le refusent. Parce que là, et de toute évidence, vous mettez un poison. Ça n'est pas acceptable. Donc, alors ils ont été embêtés, parce que Covid-19, le premier brevet, vous verrez que le seul vaccin qui a été développé, on a tout développé, c'est pour ça que je signale à tout le monde que ne vous inquiétez pas, ils ont arrêté leur projet de vaccin, on les a arrêtés. On les a frappés en plein vol le 20 août. Vous regarderez tout ce qu'il y a, et le 20 août, ils ont décidé d'arrêter. Vous ne serez pas vaccinés. Et actuellement, ils sont aux abois. Hein, et je rappelle que Mme Buzyn, quand même, c'est elle qui a obligé les 11 vaccins. C'est le seul pays où on a obligé les 11 vaccins avec l'Italie. Les autres pays ont refusé. Même en Espagne, aucun vaccin n'est obligatoire. Aux États-Unis non plus, ce n'était pas obligatoire. Mais en France, c'était obligatoire.
Hein, oui, mais alors, je professeur finir, Fortier, mais... je pense qu'il faut, on parle de, alors... de je, vous êtes pris par la colère, parce que il y a de quoi être furieux. Il y a de quoi être furieux. En fait, tout laisse à penser, puisque, si vous voulez, vous avez des preuves très factuelles.
On l'a démontré. C'est démontré.
Oui, des preuves très factuelles que ce virus est quelque chose qui a été fabriqué, et je dirais même de façon très volontaire, parce que, en particulier, la séquence du virus du sida est quelque chose de très inquiétant, puisque ça rend les gens immunodéficients. C'est encore plus inquiétant pour la partie des vaccins, puisque les vaccins, en admettant qu'ils soient mis au point, et quand je dis ils soient mis au point, ben vous avez le cas du vaccin d'AstraZeneca, qui est le vaccin Moderna, qui était...
Ah non, le Moderna n'existe pas. Hein.
Non, mais attendez.
Il n'existe pas.
Bon, alors attendez, le vaccin d'AstraZeneca, qui était soi-disant le plus avancé, le vaccin d'Oxford, eh bien, a donné lieu à un accident très grave.
Non, c'est pas celui-là.
C'est
le vaccin d'AstraZeneca. Moderna, c'est pas le vaccin d'AstraZeneca.
Non, c'est bien d'accord.
Moi, AstraZeneca, okay. Oui.
AstraZeneca, Oxford, voilà. En liaison avec Pomelia à côté de Rome, l'IRBM, puisque le ministre Renzi a annoncé ces jours-ci que le personnel sanitaire allait être vacciné avant la fin de l'année.
Choses factuelles qu'on va développer, parce que, si vous voulez, si on continue, les gens n'y comprendront rien. Parce que qui a fabriqué le Covid-19, pourquoi, ouais. Qui sait. Donc, dès l'instant où l'épidémie a été lancée par le gouvernement français, à l'insu des Chinois, on l'a transporté là-bas pour leur faire porter le chapeau, alors que les Chinois, c'est un pays que j'adore, mais qui sont des gens très compétents, d'ailleurs, comme le dit le professeur Raoul, etc., des gens très savants, et vous remarquerez qu'ils ont soigné tout le monde. Ils avaient des masques, hein. En France, on a fait le contraire. On a fait le contraire. Et qui étaient les criminels? C'était les Français. Ils ont essayé de faire porter le chapeau aux Chinois.
Alors,
c'est l'horreur absolue. Hein.
Alors écoutez...
Et à la mi-février,
et ils savent
les Chinois pouvaient livrer sans problème la France.
Oui,
en
mais
masque.
Attendez. Mais le problème, c'est qu'il est évident que le gouvernement français... Et je dirais la suite des ministres de la Santé qui s'est succédé depuis 2019, eh bien, n'ont pas fait leur boulot. Et même, je dirais, même ils ont agi de façon négative vis-à-vis de la population. Déjà, l'interdiction de l'hydroxychloroquine, c'est quelque chose, c'est un crime signé. Parce que, franchement, c'est d'un seul coup, je me mets à interdire l'aspirine. C'est n'importe, c'est comme ça.
Hein. Attendez, alors... Si on s'en restait là, ils étaient tranquilles, parce que l'hydroxychloroquine, ils pouvaient toujours dire « on ne savait pas », parce qu'il y a des gens qui ont publié, et puis c'est jamais l'autre. Mais quand on sait qui a fabriqué le Covid-19, les choses changent, parce qu'ils ont dit qu'il y avait beaucoup de morts, alors qu'il n'y en avait pas. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a un chiffre qu'on peut donner. 1% de la population mondiale meurt tous les ans. Il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, donc il y a 80 millions de morts par an. 80 millions de morts par an. Et l'âge moyen des morts, c'est l'espérance de vie. Et même avec le Covid, c'est l'espérance de vie. Alors on nous a raconté tout un tas de choses, mais on s'en fiche. Ils ont augmenté le nombre de morts, c'est une charge qui va être reprise contre eux, parce que le nombre de morts est surtout dû au stress, à la peur. On n'a pas soigné les gens, on a donné du Rivotril.
On a intubé,
il fallait que ça dégage, on a fait croire et tout.
Le Rivotril, c'est pour tuer les gens.
Absolument.
Bah, ils ont même autorisé. Mais c'est un crime. Or,
bah oui, on refusait,
je rassure tout le monde, ils ont perdu. Ils ont perdu. Pourquoi? Puisque l'OMS vient de déclarer il y a 8 jours. Parce qu'après, ils ont perdu. Donc, quand nous, vous regarderez bien VéritéCovid19.fr et la vidéo que notre ami Frédéric Chaumont a faite, qui est une numéro absolument merveilleuse. Je cite le cas de Frédéric Chaumont. Il y a 2 mois, je ne le connaissais pas. Je l'avais repéré pour ses qualités pédagogiques extraordinaires. Et il a fait une vidéo. Je lui ai expliqué. Il ne connaissait rien. C'était un candide. Je lui ai expliqué. Vous savez, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il a compris. Hein, il a compris et il a fait une vidéo absolument miraculeuse que j'aurais été incapable de faire, absolument magique.
Qui explique
ça. Et cette vidéo les a fait tomber. Et ils n'ont pas du tout crié au scandale. On a donné la liste des 12 coupables avec tout. Il y a président Macron, Bill Gates, Jacques Attali, Madame Buzyn, Lévy. Il y en a 12. Ceux-là, ils étaient au courant. Et ensuite, il y a tous les autres. Parce que les membres du Conseil scientifique, ils pouvaient toujours dire, ils gagnaient de l'argent, mais ils pouvaient dire, on ne savait pas.
Didier Rochard. Alors, j'écoute, et je ne suis pas le scientifique, je suis le candide aussi, mais j'ai beaucoup étudié tout ça, et j'ai profité du Covid pour travailler un peu la question. Je dois avoir un dossier qui fait plus de 2500 pages maintenant là-dessus. Bref, moi ce que je voudrais simplement rappeler, c'est avant tout ça, pourquoi le Covid et pourquoi
alors,
là
Juste une chose, question, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, doit-on dire le ou la ? Eh bien, disons qu'on choisit ce que l'on veut.
Voilà.
Mais en fait, théoriquement, si on voulait être sérieux, ça serait la Covid, parce que c'est une maladie.
Je voudrais donner un précis sur ce nom, très important, très important. Quand vous regardez la fabrication du vaccin, du seul vaccin qui a été développé, vous savez, ils n'allaient pas développer 160 vaccins en 3 mois, hein, ça c'est... et les laboratoires n'utilisaient qu'un produit. Hein, donc il y a eu 159 fleurs, ça c'est... Quand ils ont découvert ce brevet, ils ont été embêtés, parce que quand ils avaient fait Shadox 1, donc quand ils avaient branché greffer le génome du Covid-19 dans le Shadox 1, ils avaient dit Shadox 1, et puis ils avaient pris le SARS-CoV-2 qui n'avait pas d'ARN, et ils l'ont branché, et le résultat, c'était Shadox 1 N-CoV-19. Et ça voulait dire qu'on aura le virus fabriqué en 2019. Bon. Et il suffisait de suivre Wikipédia. Tout d'un coup, sur Wikipédia, ils ont dit Covid-19, c'est Coronavirus Disease 2019. Alors là, ça, c'était vrai. Ils avaient inventé. Parce qu'en fait, c'était pas SARS-CoV-2 qu'ils avaient branché. Ils avaient mis le sida, mais ça, ils ne pouvaient pas le déclarer. Parce que si vous, même les volontaires, si vous leur dites on vous donne ce sida, les gars, ils vont partir en courant. Comme ils disent rien, il y a 159 produits, il y a tout un tas de trucs, il y a certainement le timosal, il y a rien.
Soyons très factuels, parce que, si vous voulez, il ne faut pas... Lorsque vous avez, par exemple, un cambriolage qui se fait, et vous avez, par exemple, à côté un campeur qui était de toute évidence le coupable. Il ne faut pas dire cette personne est coupable. Elle est susceptible d'eux et
nous
laisse à croire.
Nous l'avons dit.
Alors, je vais dire pourquoi. Parce qu'il faut être très factuel là-dessus. Et à qui profite le crime ? Le crime est évident. Le crime est évident parce que quel est le bénéfice de tous ces gens-là ? Pour M. Bill Gates, c'est qu'il contrôle la population avec un vaccin. Nous n'avons pas parlé des nanoparticules, c'est encore autre chose, parce que les nanoparticules injectées dans un vaccin permettent de repérer immédiatement avec un détecteur simple si la personne est vaccinée ou pas, par la 5G entre autres.
Voilà, c'est uniquement le détecteur de vaccination,
mais ceci étant, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument effrayant, parce que l'origine de la Covid-19, enfin ce virus qui empoisonne tout le monde en ce moment, eh bien n'est pas du tout quelque chose de naturel.
Alors j'aimerais, vous le voulez bien, voilà, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu travaillé la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, c'est l'objet de cette manipulation absolument mondiale, absolument extraordinaire. La moitié de la population du monde est mise en confinement chez soi. Ça s'appelle une incarcération à la maison, ce qui ne coûte rien aux États, sinon que ça détruit évidemment l'ensemble de l'économie. Mais il se trouve que j'avais lu il y a fort longtemps, puisque c'était dans les années 2010, le rapport de la CIA qui a été publié en français, traduit en français par Alexandre Adler, et qui est la prospective de la CIA pour l'année 2025. Et puis ça a été repris une année plus tard par un document de la Commission européenne qui apporte à peu près le même type. Tout ça est publié, ce sont des livres, hein, qui s'appelle Prospective ou Le Monde en 2025. Or, dans ces deux ouvrages, il y en a un autre aussi que vous trouvez sur Internet, c'est un document de 58 pages de la Fondation Rockefeller et du 10 mai 2010. Voilà, vous tapez Fondation Rockefeller 10 mai 2010 et vous trouvez un document de 58 pages qui lui est resté en anglais, où ils vous disent bien que l'hégémonie mondiale américaine va s'affaiblir progressivement pour des raisons industrielles, pour des raisons diverses, et que c'est la Chine qui va prendre l'hégémonie mondiale. Et il est dit dans ces documents que ça n'est pas envisageable. Et ils envisagent les solutions pour que ça ne se produise pas comme ça. La solution, alors il y a plusieurs scénarios qui sont décrits, et le scénario final, celui qui est reconnu et qui a été annoncé à cette époque par un certain nombre de personnalités politiques, le scénario, c'est la destruction du tissu industriel chinois. Bien. Et ce qu'ils appellent aux États-Unis « the Great Reset », c'est-à-dire la grande réinitialisation de toutes les monnaies, puisque tous les pays sont endettés dans des situations impossibles. Moi, je vois simplement Henry Kissinger, dans une conférence sur l'eugénisme à l'OMS le 25 février 2009, disait, je cite naturellement, « Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi, entre guillemets, pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser, entre guillemets, pour le plus grand bien. Contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre eux, et vous en êtes dans cette salle les inventeurs. » Il s'adressait au public qui était rassemblé par l'OMS à ce moment-là. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d'extermination. Fermez les guillemets. Et ça, c'est le 29 février 2009. Et M. Attali, dans l'Express du 13 mai 2009, c'est public, c'est dans l'Express, explique bien qu'on ne peut plus contrôler les peuples. Parce qu'il commence à y avoir les réseaux sociaux, les gens s'inquiètent, se recherchent, etc. Donc la seule solution pour contrôler les peuples, c'est la peur.
Absolument.
Et en faisant une peur, la seule peur, vraie peur, c'est la peur de mourir. Et par conséquent, les peuples, on va leur inoculer cette peur de mourir par une pandémie. C'est écrit dans l'Express. Le 13 mai 2009, vous pouvez aller sur Internet, on retrouve l'article. Ça, c'est monsieur, c'est monsieur Attali qui le dit.
Oui, ils ont commencé par le H5N1.
Donc, tout a été prévu, tout a été organisé. Et pourquoi cette année? Eh bien, tout simplement parce que vous remarquez que dans le monde, les peuples commencent à réagir. Ils votent plus très bien. Ils sont populistes aujourd'hui. Ils sortent dans la rue. Bon, ils sont un peu au courant, ils suivent Internet, ils ne suivent plus les médias, les grands médias.
Ils ont la théorie du complot.
Ils ne lisent plus. Alors donc, ils sont complotistes, c'est évident. Ça, c'est la désignation facile pour faire taire votre interlocuteur. À partir du moment où vous avez dit, enfin, ah, vous êtes complotiste, vous n'avez plus le droit de parler, on ne vous écoute plus. Bon, mais en attendant, tous ces textes-là, ils existent. Bien. Par conséquent, il suffit d'aller voir sur Internet, il suffit de travailler un peu son sujet, et on s'aperçoit que tout a été largement organisé depuis la prise de brevet, puisqu'ils ont travaillé à cette pandémie, il fallait trouver une pandémie.
Il n'y a pas les Chinois, Les Chinois n'ont jamais pris de brevet.
Non, parce qu'on voulait détruire leur tissu industriel.
Les Chinois ont sauvé leur peuple.
Et c'est bien la raison pour laquelle on a inoculé ce virus à Wuhan, qui est la grande ville industrielle chinoise. C'est là où il y a tous les centres névralgiques de toutes les entreprises mondiales.
Pour leur faire porter le chapeau.
Il y a Airbus, il y a les sièges de Peugeot, de Renault, de toutes les grandes sociétés. Il y a naturellement le laboratoire P4 qui a été transféré de Bretigny, enfin, etc. Là, c'est une grande histoire. Mais donc encore un P4 français. Il y a le fait que, n'oublions pas, Charles Mérieux, qui est le fondateur, en fait, des normes sanitaires dans les P4.
Mérieux,
voilà. Et que Alain Mérieux a quitté avec force de fracas le conseil d'administration du P4 de Wuhan en 2015. Le P4 n'était pas encore inauguré, hein. Il était en fonction mais pas encore inauguré. Donc Alain Mérieux,
février 2017.
Voilà, ça a
mais
été
les laboratoires
voilà,
français
ça a été inauguré par monsieur Cazeneuve et monsieur Lévy, le mari de madame Buzyn qui dirigeait l'INSERM. Alors, il faut savoir que Alain Mérieux donc, a quitté avec force et fracas, mais évidemment ça n'a pas fait de bruit dans les grands médias, le laboratoire P4, le conseil d'administration de P4, en disant attention, on est parti pour faire n'importe quoi. Le n'importe quoi, c'est l'Occident en quelque sorte, la France en particulier sans doute, qui a été effectivement désignée. D'ailleurs, première décision, je rejoins Jean-Bernard, première décision du gouvernement Macron, les 11 Valences.
Bien sûr.
Les 11 valences.
C'est-à-dire les 11 vaccins obligatoires pour les jeunes enfants. Je tiens à faire une parenthèse sur cette obligation vaccinale pour les jeunes enfants. Eh bien, il y a des vaccins qui ont été obligés aux États-Unis et ça a provoqué une épidémie d'autisme. Alors, ça a provoqué. Il y a des gens qui disent que ça n'a aucun rapport. Bon, très bien. Mais alors, quand même, il y a eu, avant, il y avait un autiste sur 1000 et maintenant, il y a un autiste sur 50. Alors,
Dans certains États,
vous n'avez pas parlé du tout.
Je vais rappeler la chose suivante. Moi, je m'intéresse, j'étais médecin généraliste et je me suis intéressé au problème des vaccins. Et comme j'habitais Genève, je suis allé à l'OMS. Et j'ai vu toutes ces études de l'OMS depuis plus de 50 ans qui montrent des choses incroyables. C'est que les vaccins sont toxiques, qu'ils sont d'une inefficacité totale et qu'ils tuent beaucoup de gens. Et quand j'ai vu ces études, moi j'ai dit aux gens de l'OMS qui les avaient faites, mais votre étude, par exemple, il y a une épidémie quelque part et on voit que c'est les vaccinés qui meurent. Je n'ai pas inventé ces études. Mais les gens de l'OMS me disaient toujours, mais cette étude, si on la publie, mais l'OMS s'effondre. Or, l'OMS, pour vivre, a dû mentir depuis un demi-siècle. Elle a dû faire croire aux gens que les vaccins, c'était la solution. Or, la loi universelle est très simple. C'est que notre immunité dépend de notre mode de vie. Alors, si je vis intelligemment, je m'occupe de moi, etc., c'est mon immunité qui va me protéger. La croyance que ma santé va venir d'un vaccin ou d'un médicament, c'est une illusion totale. Croire ça, c'est ce qui a perturbé tellement de gens, c'est qu'ils ont cru que Big Pharma allait les sauver. Or, Big Pharma ne fait que nous empoisonner. C'est ça que les gens doivent réaliser. Alors, l'autre chose à comprendre, c'est que la médecine a toujours été une affaire individuelle. Depuis des millénaires, un médecin soigne un patient après l'autre. Mais donner à tous la même chose, c'est un non-sens absolu. C'est comme si je disais, j'ai un patient qui a une infection, allez, antibiotiques à tous mes patients. Mais on mettra en prison pour s'en dire, c'est pas de la médecine ça. Or, le vaccin est une illusion totale. Depuis Pasteur, on a cru que les virus et les bactéries étaient des ennemis, alors que nous avons dans notre corps plus de virus et de bactéries que de cellules, il faut toujours se rappeler ça, et la réalité est tout autre, c'est que le corps est d'une intelligence colossale, et que dans son intelligence, quand nous sommes trop intoxiqués, eh ben, il fait des maladies, il demande aux virus et aux bactéries de faire une petite fièvre, etc., pour nous dépolluer.
Le mal a dit.
Voilà.
Le mal nous dit.
Le mal a dit. Donc la maladie est quelque chose d'utile. Alors le fond du problème, c'est qu'il faut dire aux gens que leur immunité dépend de leur mode de vie, et elle ne viendra jamais d'un produit chimique ou d'un vaccin. Ça, c'est la grande illusion collective.
Je voudrais le dire.
Professeur Fortier.
Et sûrement alors, pas de 16 vaccins. Par rapport aux milliards de microbes que nous avons.
Il y a deux ans, je ne connaissais pas les vaccins. Je me suis intéressé aux vaccins uniquement pour aider mon ami Henri Joyeux quand il a eu ce problème de l'aluminium. Et c'est moi qui ai trouvé, vous remarquerez que j'ai trouvé que l'aluminium était la dose administrée par l'aluminium était toxique et qu'elle était interdite par la FDA depuis 1996. Donc déjà, bon, ça j'ai dit, personne ne l'avait vu, ça. C'est quand même quelque chose d'énorme.
C'est une énorme découverte.
Ensuite, j'ai découvert autre chose, vous le verrez. J'ai écrit à Robert Kennedy, quand Robert Kennedy a gagné un grand procès, car les laboratoires pharmaceutiques, donc les gouvernements américains, les ministères de la Santé, l'AEDA, le CDC,
FDA,
ont tous reconnu qu'ils n'avaient jamais fait d'études de qualité et de toxicité sur les vaccins. Pourquoi ? Parce qu'au début, on mettait le virus dans le vaccin.
Direct,
c'est tout.
Ouais.
Donc on n'allait pas faire la toxicité du virus. C'était le virus. Mais maintenant, attendez, regardez le vaccin. Il y a au moins 250 produits là-dedans.
Alors, attendez, pour être très factuel, vous avez, professeur Fortillan, montré que la plupart des vaccins qui contiennent des adjuvants aluminiques ont des doses d'aluminium qui dépassent la dose considérée comme légalement comme toxique.
Mais c'est toxique.
Et ce point est très important. Ça veut dire qu'on administre pas à des adultes, à des enfants, des vaccins dont la quantité d'aluminium qui est contenue dans ces vaccins est toxique au sens, disons, des normes du ministère de la Santé.
Mais il n'y a même pas que dans les vaccins. Avez encore 15 médicaments.
Essayons
de ranger notre émission parce que nous parlons de je voudrais faire une espèce de bilan de ce que nous avons vu en un peu plus d'une heure. Eh bien, nous avons montré, et ça c'est le professeur Fortillan Et en faisant une analyse très complète de toutes les publications et des brevets qui ont été déposés, que il y a que le virus du COVID-19, eh bien, ce virus n'était pas naturel. C'était quelque chose qui est artificiel parce qu'il contient des composantes qu'on ne peut pas trouver naturellement. Deuxièmement, dans tout ce qu'on a dit au début, on a aussi bien remarqué que la mortalité due au Covid-19 a été très largement surestimée et que l'État nous terrorise la population en faisant des déclarations absolument hallucinantes. Et ces déclarations hallucinantes pour faire croire que les gens sont malades sont dues aux tests. Alors, il est évident que, soyons sérieux, si on teste toute la population française, on va trouver 5% en gros de gens qui ont eu la grippe du Covid-19 sans jamais avoir des symptômes concrets. Et c'est passé par-dessus eux, ils sont pas tombés malades et ils ont eu ça, ils ont eu comme une infection. Alors ils sont testés positifs parce que simplement ils ont eu cette infection, mais ils sont pas pour autant ils sont pas nécessairement en danger. Et alors maintenant, si vous prenez une personne testée en quelque sorte, elle a en général 20 personnes qu'elle connaît, donc toutes ces relations, si vous multipliez 5% de la population, ça fait 3 millions. Si vous multipliez par 20 personnes, ça veut dire qu'il y a 60 millions de personnes qui sont susceptibles d'être infectées. Non, mais c'est ce que veut nous faire croire. C'est ce que veut nous faire croire le gouvernement. Alors du coup, je dirais que cette espèce de frénésie de tests avec des queues partout pour se faire tester est à mon avis hallucinante. On est en train de terroriser la population pour leur dire, mais maintenant vous êtes tous malades et la seule solution pour vous, ce sera de vous faire vacciner.
Exact. Alors, j'aimerais rappeler quelque chose. L'histoire nous montre que c'est pas nouveau. Au début du sida, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un test qui s'appelle être séropositif.
Pareil.
Mais on n'a pas dit aux gens qu'on peut être séropositif pour 70 raisons.
66,
une seule de ces raisons est le HIV. Mais vous pouvez être positif parce que vous avez la malaria ou parce que vous êtes enceinte.
Ou la grippe.
Ou la grippe. Donc on n'a pas dit ça aux gens. On a dit vous êtes séropositif, c'est le sida. Et aujourd'hui on fait pareil. On donne à un test une valeur qu'il n'a pas. Les tests médicaux, ce n'est pas la vérité.
Mais d'ailleurs, leur créateur l'a bien précisé au début. Il l'a dit.
On nous demande de ne pas parler tous en même temps. Alors, allez-y Serge.
Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors aujourd'hui la grande peur c'est ça. Tout le monde va se faire, même dans les écoles et tout, les infirmières prennent l'initiative d'elles-mêmes de convoquer toutes les classes pour faire des tests, etc.
C'est illégal, parce que la loi Kouchner, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un test, ni un vaccin à l'enfant sans demander l'avis des parents. Donc c'est vraiment inadmissible.
On vous annonce tous les jours, pour maintenir la pression et la peur, 5 à 10 000 tests positifs par jour, avec des tests, je le répète, c'est sorti de la Commission européenne, où il n'y en a aucun qui ne montrent les séquences, parce que il faudrait parler, mais c'est un petit peu technique, j'ai peur de lasser l'auditeur, mais comment on isole un virus? Parce que vous avez 30 milliards de corpuscules dans le surnageant de décantation lorsqu'on fait une biopsie, et là-dedans se balade votre éventuel virus. Donc en fait, ils sont identiques. Comment on fait? Alors, il y a ce quasi-Nobel, puisqu'il a été nommé, mais comme il n'a pas d'affinité avec les laboratoires, aujourd'hui les Nobel sont nommés avec l'appui des laboratoires.
Oui, attends,
donc
il faut payer.
Son nom, et j'invite les auditeurs à aller voir sa vidéo sur BioBlue TV, mais c'est en italien. Hélas, je suis en train de le faire sous-titrer en français. C'est fabuleux ce qu'il annonce. Et d'ailleurs, il appelle, s'il y a des avocats qui nous entendent, à une action juridique d'ampleur européenne contre les autorités européennes qui ont laissé au 16 avril exactement, 78 tests sur le terrain, alors que aucun ne garantissait le résultat. Alors, non, mais c'est fabuleux.
Didier Rochard.
Alors, non seulement ça, Serge, bien sûr que ces tests ne garantissent rien.
Stefano Scoglio.
Voilà, ça c'est le nom.
S-C-O-G-L-I-O. Stefano Scoglio.
Alors, il faut rappeler que la liste officielle du ministère en France, du ministère de la Santé, a été déposée concernant le test, l'homologation des tests, pardon, a été déposée le 21 mai 2020. Or, le CNR, le comité national d'homologation, a retenu 23 tests. Or, nous savons que je vous renvoie à la vidéo de David Mandels, qui est un physicien tout à fait indépendant dans un laboratoire complètement indépendant et qui a été chargé donc de tester 11 de ces tests.
Il l'a fait bénévolement
dans son groupe qui s'appelle X-Rapid Group. Vous pouvez trouver sa vidéo très facilement. Les 11 autres tests qui étaient proposés, alors il y avait des tests internationaux, qui venaient de l'étranger. Je crois qu'il y avait un test français de NG Biotech, qui est tout d'ailleurs l'un des meilleurs, mais qui passe tout juste la limite. Il y en a un.
Il y en a un seul, mais qui est limite.
Qui passe limite. Tous les autres sont rejetés. Absolument. Par un laboratoire parfaitement indépendant et rejeté parce que pas valable du tout. Ils disent que ça ne démontre rien. Au contraire, ces tests-là vont faire des erreurs de diagnostic parce qu'on va tester positif des gens qui ne le sont absolument pas.
Et je rappelle qu'a été lâché sur le marché européen 600 000 tests, je crois que c'était en Belgique, qui étaient contaminés par le coronavirus.
En Espagne, il y en avait
300 000 autres en Angleterre,
exact.
Etc.
Enfin, ce que vous dites est très important parce qu'on a accusé un certain nombre de ces tests d'être littéralement non seulement pas valable, mais d'être contaminant.
Contaminant. Donc, le ministère, donc, le 21 mai 2020, fait la liste des 23 tests homologués. Or, on sait que ces 23 tests, aucun ne permet de tester quoi que ce soit. Voilà. Alors, évidemment, il y a une intention. Alors, l'intention, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que tout le monde soit positif. Car n'oublions pas que le président de la République a annoncé le 11 mai dans son discours qu'il se faisait fort demain ou après-demain ou en même temps, enfin on verra, de tester 700 000 enfants par semaine dans les écoles. Or, c'est pas les enfants, ils vont être testés, ils seront positifs d'après les tests puisque les tests n'ont aucune valeur. Mais on va de cette façon pouvoir aller voir les personnes contacts. Le président l'explique. Et ces personnes contacts elles-mêmes visitées avec des pouvoirs supérieurs au pouvoir de police par les fameuses brigades sanitaires.
Absolument.
Que le président avait très intelligemment intitulé dans son discours. C'est toujours le principe d'inversion que je défends. Il avait dit que c'était des brigades d'anges gardiens. C'est dans son discours. Reprenez
écoutez,
le 11 mai.
Serge je vous interromps juste une seconde pour dire aux parents qu'il faut refuser que leurs enfants soient testés de façon automatique. Ce point est très important. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il faut voir quelles sont les conséquences des tests. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, vous êtes curieux. Vous dites, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal à la tête, j'ai le nez qui coule, j'ai peut-être le coronavirus. Ah, ça peut être grave. Étant donné qu'on ne sait pas bien le soigner, peut-être faudrait-il que je cherche de l'hydroxychloroquine pour me faire soigner. Je veux savoir si je l'ai ou pas. Bon, c'est une curiosité naturelle. Et puis, vous êtes testé positif, par exemple. Vous dites, tiens, j'ai attrapé la grippe sans le savoir. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont très graves, parce qu'à ce moment-là, on va vous demander tous les contacts que vous avez eus. Tous les contacts que vous avez eus, par exemple à Radio Courtoisie, vous avez tous les directeurs de Radio Courtoisie, on va dire, oh là là, eh bien il faut vous hospitaliser, vous faire soigner, alors vous dites je ne suis pas malade, mais c'est et vous allez être obligé de le faire. Ce qui veut dire que par exemple dans les écoles, eh bien quels sont les parents qui n'ont pas connu un cas de rhinopharyngite de leurs enfants. Bon, alors, ce que vous avez les enfants qui ont une rhinopharyngite, soit vous envoyez l'enfant quand même en disant tu prends un mouchoir, tu te moucheras, soit vous le gardez à la maison, soit vous allez voir le médecin, soit vous faites rien de tout ça. Mais à ce moment-là, si on dit à chaque rhinopharyngite, automatiquement, il faut tester le malheureux gosse, et puis si par hasard on trouve qu'il est positif, il faut que toute la classe soit confiné. Enfin, c'est absolument de la folie. Alors, juste une question aussi. J'ai les questions d'auditeurs. Alors, j'essaie de ne pas toutes les prendre parce que sans ça, on n'arriverait pas à y répondre. Mais il dit, bonjour messieurs, comment expliquez-vous l'augmentation de morts depuis mi-août? Mais il n'y a pas d'augmentation. Non, c'est-à-dire, si vous regardez toutes les courbes de décès, les hôpitaux sont vides, il n'y a pas de personnes aux urgences et même le personnel hospitalier dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on fabrique en quelque sorte...
Par contre, t'es réactif, positif.
Bien sûr.
En fait, on fabrique une épidémie. Alors, on fabrique un retour de l'épidémie qui n'a pas lieu. C'est-à-dire, si vous allez sur Internet, chers auditeurs, et si vous regardez les courbes de mortalité, vous avez une espèce d'énorme pic. Et puis ensuite, ça se termine par un plat. C'est zéro. Donc, tout ce qu'on raconte est faux. Et je pense que le gouvernement cherche de façon évidente à terroriser la population en disant « testez-vous, c'est affreux », etc. pour dire ensuite, eh bien, dès qu'il y aura des vaccins, il faut que les vaccins soient obligatoires. Absolument. Professeur Fourtier.
Alors, donc, j'arrête tout de suite la discussion parce que...
Il faut rentrer dans la désobéissance.
Ils ne cherchent plus à terroriser.
Tout ça.
Ils ont perdu. Ils le savent depuis le 20 août. Oui. Quand j'ai sorti, vous avez vu ma vidéo, on a désigné les 12 coupables. Nous n'avons dit que des faits, on n'a jamais dit que c'était... Mais c'est très clair. Alors on l'a dit, vous aviez vu la réaction qu'il y avait eu au mois de mars quand ils ont trouvé ce brevet, ils s'étaient esclaffés. Là, personne ne nous a attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu, on les a frappés en plein vol, ils ont perdu. Et ça n'a pas loupé. Au bout de 4 jours et demi, on a eu une réaction de 2 chaînes de télé, mais alors c'est complètement idiot. Sur LCI et sur RTL, il y avait Michel Simès d'un côté qui était taiseux, il avait compris qu'ils avaient perdu. Il y avait une journaliste sur LCI qui ne parlait que de notre ami Frédéric Chaumont.
Pitoyable.
Qui est opticien, mais c'était ridicule.
Pitoyable.
Parce que la fille disait qu'il n'était pas médecin, alors Bill Gates n'était pas non plus, mais... Il n'avait fait que des vérités. Et, bon,
et le directeur de l'OMS...
Il était le porte-parole, mais il avait parfaitement compris. Il a fait une merveilleuse vidéo. Alors ça, j'étais incapable d'en faire. Et on les a arrêtés. Ça n'a pas loupé. Au bout de 6 jours, la première action, c'était Paul Hudson. Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, Pasteur, Sanofi Pasteur. Vous savez qu'ils avaient prévu une deuxième vague pour le mois d'octobre. On n'en parle plus. Ils avaient prévu aussi que début septembre, toutes les classes étaient fermées. Et c'est pour ça que je voulais sortir cette vidéo le 20 août. Je me suis caché pendant 2 mois. Personne ne savait où j'étais. Et encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Fin juillet, j'étais extrêmement suivi. Je pense qu'il n'y a aucun lanceur d'alerte à qui on avait bloqué tous les comptes, les cartes de crédit. Le 31 juillet, ils ont bloqué ma carte de crédit, celle de ma femme. J'avais 30 000 euros, je faisais code bon, paiement refusé. Et puis, tous mes comptes étaient bloqués. Ils me surveillaient, pas pour le Covid-19, mais ils me surveillaient parce qu'ils savaient que j'avais trouvé pour l'aluminium, pour le thimérosal et la suite. Ils savaient que si ça s'était reconnu, ils étaient foutus pour les vaccins. Hein, parce que vous regardez, il y a tous les dossiers, hein, il y a le thimérosal et tout. Hein, j'avais écrit à Robert Kennedy, hein, et le 6 mai, j'avais déjà dit que les Chinois ne mentent pas, et j'avais déjà dénoncé le truc de Pasteur. Le 6 mai, personne ne le savait. Hein, il n'y a que Robert Kennedy qui l'a reçu, et avec mon ami Serge Rader, nous avions des relations, c'est grâce à lui que j'ai pu être en contact avec Robert Kennedy et Andy Hochfield. On avait des relations, on avait essayé de faire passer par les ambassades les documents. On avait écrit, d'ailleurs, vous le trouverez, au président chinois, au président russe. Heureusement qu'ils étaient là pour nous sauver. Hein. Heureusement qu'on
en fait,
a
on a écrit à tous ceux qui sont hors système.
Oui, donc je rassure tout le monde, tout est arrêté, on ne vaccinera pas, il n'y aura pas de deuxième vague, mais évidemment, ils ne vont pas lever les mains, c'est nous. On reconnaît. Donc, chacun de leur côté, ils disent « c'est pas moi, c'est l'autre », etc. Alors, on voit que le conseiller scientifique, maintenant, parle de H1N1. Justement, à propos de vaccins, le professeur Montagnier, il n'y a pas longtemps, a dit que quand on vaccinait, parce qu'il a quand même dirigé Pasteur entre 1983 et 2000, après, il a été fâché avec eux, il ne les connaît plus du tout, et il a dit l'autre jour que quand on vaccinait contre la grippe des vieux, mais surtout... des gens qui étaient sous traitement chimiothérapique, ben on les tuait.
Absolument.
Parce que toute vaccination diminue l'immunité. Et c'est ce que m'a appris Tal Chaleur.
Et pour conforter ce que tu viens de dire, Jean-Bernard, c'est que non seulement l'aluminium est un neurotoxique puissant, hein, D'où les autismes, qu'on arrête de nous raconter des histoires.
Évidemment. Le thymérosal, c'est pire.
Et puisqu'on va rentrer à partir du 13 octobre, on va commencer à vacciner nos anciens, qui commencent à avoir quand même la puce à l'oreille, heureusement. Mais le vaccin antigrippe, il y a 10 à 50 fois la dose de mercure de thymérosal dedans, que les autorités européennes devaient prohiber par un avis qui a été donné en 99-2000.
Écoutez, c'est une question d'ordre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a 3 heures d'émission. Et donc là, on arrive plus ou moins à la fin de la premier battement. Alors, si vous voulez, il y a des tas de choses qu'il faut dire, mais il y a tas de choses qu'il faut dire sur les vaccins, sur les lotismes,
sur tout le problème qui nous préoccupe actuellement.
Oui, alors le problème qui vous préoccupe, eh bien, qui nous préoccupe, c'est que tout est arrêté.
On ne sera pas vacciné.
Oui, j'espère. Ben oui, j'espère que vous aurez raison.
Mais on va revenir dessus.
Je voudrais, s'il vous plaît, sur les dernières minutes qui nous restent, on en a 3 ou 4, parler des commentaires de nos auditeurs. Alors, il y a des tas de commentaires. Alors, j'ai parlé de celle. Comment expliquez-vous si peu de morts en Chine pour 1,5 milliard d'habitants ?
Aucun.
Ah, c'est très simple.
À Shanghai, c'est aucun à Pékin.
Ils ont traité tout le monde. Ils ont eu 4 000 morts pour 1,5 milliard d'habitants. C'est très simple. Ils ont traité les gens, ils se sont défendus. Ils étaient les coupables présumés. D'ailleurs, les Américains disaient, on n'a pas de preuves. Et ce qui a été terrible, c'est le prix Nobel japonais qui a dit que un coronavirus, c'était rien du tout. D'ailleurs, il y a eu 714 morts dans l'épidémie de
SARS-CoV-1
dont on a parlé. Le MERS-CoV, le deuxième coronavirus du Moyen-Orient, il y a eu 800 morts. Donc c'est rien. C'est même pas une grippette. Alors que tous les économistes croient que c'est très grave et que ça va continuer. Donc ils se trompent complètement sur l'après. L'après, c'est pas du tout ce qu'on pense. Hein. Donc actuellement... il faut que les gens soient rassurés, vous ne serez pas vaccinés, d'ailleurs le conseil scientifique maintenant commence à parler de la grippe, parce que chacun va dire « je ne savais pas ». Et Macron qui ne mettait jamais de masque, il a suivi l'émission du Tour de France, ils avaient tous les masques jusqu'aux yeux, alors qu'au début il ne fallait pas les masques.
Alors écoutez, je pense que nous allons donc terminer cette première moitié.
Il faut rassurer les gens.
Nous donnons rendez-vous aux auditeurs dans quelques minutes, alors avant que nous terminions, il faut quand même qu'on dise que tout ce qu'on raconte est faux, plus ou moins, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une maladie dangereuse, c'est quelque chose où l'on cherche à terroriser les gens
pour les vacciner.
Il y a moins de morts de la Covid-19 qu'il y en a eu des grippes des années précédentes chaque année.
C'est beaucoup moins dangereux,
c'est beaucoup moins contagieux. Et en fait, lorsqu'on voit toute la population française qui est confinée, qui se met un masque sur le nez et qui est... C'est ahurissant. Et alors, en fait, là-dessus, nous en reparlerons dans la deuxième partie de l'émission, il est évident que ça a aussi comme but de tester la docilité
des
gens. C'est-à-dire qu'on veut que les gens soient dociles.
Les asservir.
Et en fait, je me souviens d'avoir entendu simplement un ouvrier qui venait travailler chez moi, il n'avait pas de masque, il dit « mon patron m'oblige à en mettre, mais si vous voulez pas, je l'enlève. » Il dit, mais si on nous donnait l'ordre de marcher à 4 pattes pour notre santé, tout le monde marcherait à 4 pattes. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de société où la population est docile. Alors, on va en parler. Merci Serge Rader, merci Jean-Bernard Fortillon, merci Didier Rochat, merci Christian Chalchaler, et nous donnons rendez-vous dans quelques minutes.